Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Comme je l'avais donc, vous vous souvenez que dans la première partie de cet exposé, dans ce qui était l'objet principal de l'exposé de la fois dernière, je voulais étudier le rapport qui pouvait exister, s'il en était un, entre les scènes choisies pour les adaptations théâtrales de Cardenio, et tout particulièrement la pièce de Théobald de 1727, publiée en 1728, et d'autre part, les illustrations, les images qui pouvaient circuler dans l'Angleterre du début du XVIIIe siècle, et plus généralement en Europe, à la fois du Quichotte, mais dans le Quichotte, plus particulièrement de scènes qui se référaient à la nouvelle, comme disait Théobald, de Cardenio à l'intérieur de l'histoire de Don Quichotte et de Sancho Panza. Et la dernière fois, faute de compétences ou de préparation technique, j'avais dû vous faire imaginer des images qu'on ne voyait pas. Alors dans la première partie de ce cours, et en m'excusant d'ailleurs pour les auditeurs qui ne peuvent pas voir comme ceux qui sont rassemblés dans cette salle ce matin les images, je voudrais revenir sur la démonstration ou le raisonnement de la fois dernière, et en rappelant que la première série d'illustrations continues présentes dans une édition de Don Quichotte, aussi surprenant cela puisse-t-il paraître, se rencontre dans une traduction au néerlandais, publiée en 1657, et que l'imprimeur, qui est en même temps graveur, Savery, choisit une série de 24 scènes. Parmi elles, 3 peuvent ou mettent en scène des personnages de la nouvelle de Cardenio. La première est celle-ci, c'est-à-dire que cette scène dans laquelle, que vous vous souvenez, chapitre 24, première partie, Cardenio, furieux contre Don Quichotte qui l'a contredit sur un point particulier de la malice de Gaulle, la vertu supposée ou déniée de la reine Madassima, se rue sur le chevalier et le met à terre devant le désarroi de Sancho et puis le témoin qui est le chevrier ou berger qu'ils ont rencontré. Ceci est donc la première des scènes choisies, scène où Don Quichotte est essentiel, puisque c'est une histoire qui lui arrive, même si elle est provoquée par la rencontre avec Cardenio, et d'autre part une scène de violence. On voit ce Cardenio devenu un personnage de sauvage, faisant retraite par désespoir d'amour dans la Sierra Morena, et incarnant un personnage d'ailleurs de grande dimension folklorique, c'est-à-dire l'homme sauvage, les vêtements haillons, la chevelure elle-même sauvage, et toujours habitée par une violence qui peut surgir. Elle s'était, d'après le récit, déjà manifestée contre certains des chevriers qui lui apportaient à manger et dont il croyait voir en eux l'incarnation de Fernando, son ami qu'il avait trahi en lui, en épousant la femme avec laquelle il s'était engagé, c'est-à-dire Lucinda. C'est la première scène donc dans cette série hollandaise. La deuxième est aussi une scène de violence, ici plus maîtrisée, dans le burin de Savery. Et vous vous souvenez, c'est une scène assez bizarre parce qu'elle n'a pas attiré beaucoup l'attention des lecteurs de Don Quichotte. C'est le moment où, rencontrant la princesse Micomicona, Dorothea, acceptant de jouer ce rôle pour essayer de faire rentrer Don Quichotte depuis la Sierra Morena jusqu'à son village, elle lui demande son aide et lui promet que s'il délivre son royaume du géant qu'il a conquis et qui a entraîné le départ de la princesse Micomicona, elle lui promet à la fois son royaume et sa main. Et Don Quichotte accepte, comme chevalier errant, de l'aider, de lui porter secours contre le géant usurpateur, mais évidemment, en aparté, déclare qu'il ne pourra pas accepter sa main puisqu'il est lié, engagé avec sa dame, Dulcinée, ce qui rend furieux Sancho parce que, comme cela, il pense qu'il ne va pas pouvoir recevoir la récompense méritée par ses services d'écuyer, c'est-à-dire une île que lui a promis Don Quichotte, ou pour le moins un titre de marquis ou de sénéchal. Et il est très impertinent vis-à-vis de Don Quichotte. Et donc, Don Quichotte, pris, lui, de fureur à son tour, avec sa longue lance, met Sancho à terre et le bat en présence des autres personnages, le curé, le barbier et Cardenio lui-même. La troisième illustration choisie par Saveri est l'illustration qui est la seule qui pouvait se référer uniquement à l'histoire de Cardenio sans présence ni de Don Quichotte ni de Sancho. C'est le moment où, dans l'auberge, tous les amoureux, les deux couples, Cardenio, Lucinda, Fernando, Dorothea, se rencontrent et où, dans une série de supplications, repentir et pardon, se renouent les alliances ou unions déjà contractées. Et le choix de l'illustrateur était l'un des premiers moments de cette scène construite un peu comme un tableau vivant de stupeur des personnages qui se retrouvent et ensuite d'une série d'échanges qui conduit à la reconstitution des couples dissociés par le désir de Fernando. Et c'est le moment où Dorothea, agenouillée auprès de Fernando, le supplie de revenir à ses promesse à son engagement de mariage qu'il lui a fait le soir où, entrant grâce à la complicité de sa servante dans la chambre de la jeune fille, il l'a convaincue du mariage, c'est-à-dire qu'elle lui cède. Et on voit donc Fernando qui est arrivé dans l'auberge en tenant Lucinda, qu'il a fait sortir du couvent où elle était, elle s'était retirée, qui est entre les deux femmes, Dorothea, suppliante, et Lucinda. Et Cardenio se trouve, lui, de l'autre côté de l'image, sur, pour vous, ce qui est l'extrémité gauche, l'extrémité droite pour l'image, et à distance de ce moment où il n'intervient point encore dans la scène. Ce n'est que plus tard qu'il intervient lorsque Lucinda, bouleversée, va défaillir et, dit le texte de Cervantes, que Cardenio se précipite pour la recueillir dans ses bras. On voit donc qu'il y avait une première iconographie, trois scènes qui vont être reprises les mêmes et pratiquement avec les mêmes gravures dans les premières éditions en espagnol qui comportent une série d'illustrations, qui est l'édition de 1662 de Bruxelles, publiée par Juan Montmartre, Jean Montmartre, et qui fixe en quelque sorte ces trois scènes pour l'histoire de Cardenio, évidemment, à l'intérieur de toutes les illustrations qui consacraient aux autres épisodes plus fameux et plus connus du Quichotte. Dans ce cas-là, 18 illustrations, dans le cas d'Ordrecht, 1657, 24 illustrations. Et un modèle iconographique se fixe qui retient ces trois images de l'histoire ou de la nouvelle de Cardenio, deux, vous le voyez, fondées sur la violence, et une seule, la violence de Cardenio, la violence de Don Quichotte, et une seule détachant la nouvelle de l'histoire, puisque celle-ci, cette image de la réconciliation des repentirs et des suppliques est la seule qui soit entièrement consacrée à un événement et à des personnages de la nouvelle de Cardenio. Cette première série d'images était donc tout à fait disponible et Théobald ou les Anglais du XVIIIe siècle pouvaient avoir vu l'une ou l'autre de ces éditions. Mais ils pouvaient avoir vu aussi, comme je l'avais dit, d'autres séries d'images, et en particulier la série d'illustrations de la première édition en espagnol publiée en Espagne, à Madrid, qui comporte des estampes à l'intérieur du texte, 34, dans cette édition dont les illustrations ont été gravées par Diego de Obregón et qui a été publiée à Madrid en 1674. Ce qui est intéressant, c'est le fait que pour trois des quatre illustrations qui correspondent à des épisodes de la nouvelle de Cardenio, le choix de Diego de Abregón a été le même que celui de Savery à Dordrecht et repris ensuite, comme je le disais, à Bruxelles en 1662, comme si finalement il y avait une très grande inertie de l'illustration. On pourrait presque opposer la mobilité, la fluidité, la plasticité des textes, comme j'essaierai de le montrer dans la deuxième partie de l'exposé, avec les éditions abrégées de Don Quichotte, et d'un autre côté, une certaine fixité, rigidité des choix et des modèles iconographiques, avec, à l'intérieur de cette fixité ou rigidité, de légers déplacements. Dans l'édition madrilène de 1674, la première édition, et vous allez voir ici que le traitement iconographique ou esthétique, mais aussi iconographique, est un peu différent. Dans la première image de cette édition de 1674, les gravures ne sont pas excellentes, elles ont été faites à partir de banques de données électroniques. On voit la première scène, Cardenio furieux, d'ailleurs moins sauvagement représenté que dans l'image de Dordrecht, et avec ce léger déplacement, puisque ce qui est montré, c'est lorsque non seulement il a jeté à terre Don Quichotte, critiquant ce qu'il disait d'Amadis de Gaulle, mais aussi Sancho, qui s'était porté au secours de son maître, et le maître et l'écuyer gisent à terre en présence du chevrier qui, lui, est en moment d'intervenir dans cette scène pour calmer la fureur de Cardenio. La même scène, mais en allant un peu plus loin dans le texte, c'est-à-dire non pas seulement à Don Quichotte frappé et mis à terre, mais au moment où Sancho lui-même a connu le même sort. La deuxième image de l'édition madrilène est aussi une image qui reprend tout à fait la même scène que dans l'édition d'Ordrecht puis Bruxelles, c'est-à-dire le moment où Don Quichotte, furieux de les impertinences de Sancho, que le bat en présence ici de Dorothée, la princesse Micomicona, et Sancho est à terre avec le curé qui est aussi représenté dans l'image, et cette sorte de lance dont on ne voit que le début, qui ressemble aussi un peu à un bâton, on a l'impression que le traitement esthétique de la série madrilène est plus lié avec des représentations plus populaires, et vous le voyez d'ailleurs avec un burin moins subtil que celui de Savery Dordrecht. La troisième image est l'image de l'auberge, c'est l'image des repentirs et réconciliations, et avec ici une petite innovation iconographique qui, comme je le rappelais, condense deux moments du texte, puisqu'on retrouve comme à Dordrecht Dorothée agenouillée qui supplie Fernando de revenir à son engagement, et le même Fernando qui à la fois la regarde et en même temps tient par le bras Lucinda qu'il vient de rapter au couvent, et le graveur décide de déplacer Cardenio par rapport sans doute à une image qu'il a vue dans une des éditions nées de l'édition hollandaise ou de l'édition de bruxelloise, et comme en condensant deux moments du texte, déplace Cardenio pour le spectateur de la gauche à la droite de l'image. Et du coup, Cardenio est déjà dans la position d'accueillir dans ses bras Lucinda. Un traitement, peut-être du point de vue du trait plus grossier, moins subtil que celui de Savery, mais en même temps du point de vue textuel, qui permet de montrer la jeune femme entre Fernando qui vient de l'enlever et Cardenio avec lequel elle s'est engagée et qui est presque sur le moment de l'accueillir et de reconstituer pour la première fois depuis le début de l'histoire et le mariage forcé, mais non consommé, de Fernando avec elle, le retrouvant pour receler l'alliance qu'ils avaient décidée par leurs promesses réciproques. Voilà donc un léger déplacement. Et la seule nouveauté qui apparaît dans cette série, et qui apparaît avec Madrid 1674, c'est le fait que dans la série des 34 gravures de cette édition, le graveur en a ajouté une qui n'était pas dans l'édition d'Ordrecht ni dans celle de Bruxelles, qui est une qui est liée avec la nouvelle de Cardenio, et qui est cette image du chapitre 28, lorsque le curé d'un côté, le barbier et Cardenio, puisque vous savez, le curé et le barbier entrent dans la Sierra Morena pour en faire sortir Don Quichotte. Ils imaginent ce stratagème de que l'un, le barbier, sera déguisé en princesse et pleuré, et l'autre sera son écuyer. Ce stratagème qu'ils ne mettent pas finalement dans cette forme en action, puisqu'ils vont rencontrer Dorothea qui va assumer beaucoup mieux que le barbier le rôle de la princesse éplorée. Donc c'est ça l'histoire, mais avant de rencontrer Dorothea, il rencontre Cardenio, c'est pour ça que les trois sont ensemble, et c'est tous les trois qu'ils entendent une jeune femme ou qu'ils l'aperçoivent en train de se laver, l'image est mauvaise, mais de se laver le pied dans le ruisseau. Et c'est ce moment de la découverte de Dorothea, habillée en garçon pour essayer de retrouver Fernando, et qui est rencontrée par les trois personnages. Et ici, le graveur a suivi assez fidèlement la description de Cervantes, puisque, effectivement, si on voit de plus près, les vêtements de Dorothea sont des vêtements qui correspondent à ceux que lui donne Cervantes, des chausses masculines, une sorte de capotillo, de poncho, et la découverte de sa féminité venant du fait qu'elle a ôté son bonnet et que les cheveux qu'il voyait descendent assez bas, même si moins bas que dans la description de Cervantes où il couvre son corps tout entier, permettent au curé, au barbier et à Cardenio de reconnaître que ce jeune garçon est en fait une femme avec de luengos y rubios cabellos, une chevelure longue et blonde. Et ça, c'est l'ajout de cette édition qui va se perpétuer les quatre, c'est-à-dire les trois premières, plus Dorothea découverte au bord du fleuve, de la rivière, va se perpétuer dans les éditions madrilènes qui reprennent cette série iconographique en 1714, celle de Francisco Lasso, et en 1723, celle de Nicolas de Palma. Et comme je le disais, il est important de penser à ces éditions, puisque comme Théobald possédait dans sa bibliothèque une édition en espagnol, en deux volumes, avec des cuts, avec des estampes, avec des illustrations, on peut penser que cette édition pouvait être soit celle de 1662 de Bruxelles ou une de ses rééditions, soit celle de 1674 de Madrid ou l'une de ses rééditions. Et en voyant d'ailleurs la discordance qui pouvait exister entre les illustrations dans cette édition possédée par Théobald quant à l'histoire de Cardenio, qu'il met en scène avec de nouveaux noms dans la pièce Double Falsehood, et l'intrigue, justement, de cette pièce qui exclut Don Quichotte, ce qui pouvait éventuellement être une image qui, pour lui, s'était marquée dans son esprit, était celle de la troisième image, c'est-à-dire celle de la réconciliation des couples, et le fait que, très théâtralement, dans l'image, et on l'a vu avec un mouvement qui pouvait faire passer Cardenio de témoin au rôle d'acteur, c'est cette image-là qui pouvait inspirer, comme je le disais, une mise en scène, même si dans l'édition de 1728 de Double Falsehood, il n'y a pas de mention de jeu de scène à ce moment-là. Ensuite, on pouvait se déplacer vers les illustrations dans les éditions en anglais de Don Quichotte. J'avais rappelé que leur série ne commence qu'en 1687 avec la seconde traduction en anglais du Quichotte, celle de John Phillips, un des neveux de Milton, et qui ensuite définissait une série iconographique de 16 estampes, reprise par des traductions ultérieures, en 1700, celle de Motteux, en 1719, celle de Hosel, mais dans aucun de ces trois cas, il n'y avait une image qui se rapporta à l'histoire de Cardenio. En revanche, une autre série iconographique qui commençait en 1700 avec l'édition de la traduction de Stevens portait à l'attention du lecteur deux scènes, l'une qui était le Cardenio furieux contre Don Quichotte et l'autre qui était Dorothea suppliant Fernando. La nouveauté disponible pour Théobald dans les années 1720 était une édition qui rééditait la première traduction, celle de Shelton, en 1725, et comme le disait le titre, « With curious set of cuts from the French of Coypel », là, avec une série curieuse d'illustrations qui venaient la série française de Coypel. J'avais rappelé qu'il s'agissait de cartons de tapisserie qui avaient circulé en images volantes. Et dans cette édition de 1725, qui comprend 15 estampes gravées par Gérard van der Gucht, qui respecte cette sorte d'esthétique courtisane, curiale, théâtrale des cartons de Coypel. Il y a une seule nouvelle, une seule image qui concerne la nouvelle de Cardenio, c'est celle-ci, c'est-à-dire un moment qui n'avait pas été représenté jusqu'ici, puisque la princesse Micomicona, dans toutes les images qu'on a vues jusqu'alors, n'intervient que comme témoin de la violence qu'exerce Don Quichotte sur Sancho. Et ici, le graveur en anglais, Van der Gucht, enfin, qui travaille en Angleterre, je pense qu'il est d'origine néerlandaise, décide de remonter dans cet épisode un peu en amont, de façon à montrer l'arrivée de Dorothea déguisée en princesse Micomicona, suppliant le chevalier errant de lui prêter son bras. Et vous le voyez, il y a d'ailleurs une légende, « The pretended princess of Micomicon », la prétendue princesse du Micomicon, petitions Don Quixote, supplie Don Quixote, lui fait demande to restore her to her kingdom, de la restaurer dans son royaume. Donc la scène n'est plus celle du chapitre 30, violence de Don Quichotte contre Sancho, mais celle du chapitre 29, lorsque Dorothea arrive ici avec le barbier qui joue le rôle de son écuyer, alors qu'il avait été prévu par leur premier stratagème qu'il soit la princesse elle-même, ou lui-même, et on voit Don Quichotte qui est descendu de Rocinante et qui accueille cette princesse en compagnie de Sancho et d'un Cardenio qui, au fil du récit, s'est de plus en plus civilisé, aristocratisé, depuis la figure première qui était celle de l'homme sauvage. Et la scène qui reprend un des cartons de Coypel et une des images gravées qui avaient été tirées des cartons de Coypel pour cette série de tapisseries des Gobelins, est une scène évidemment extrêmement théâtrale qui suit de très près le texte de Cervantes, mais avec ce fait que le barbier, au premier plan, comme un acteur sur le théâtre, rit dans la fausse barbe qu'il s'est mis, montrant évidemment le subterfuge en train de fonctionner, et Don Quichotte avec ses illusions d'être la dupe de cette fausse princesse, faussement dépossédée d'un royaume qui n'existe pas. L'idée étant évidemment que ce subterfuge doit conduire Don Quichotte au Micomicon et par un très bon hasard, le village de Don Quichotte se trouvera sur cet itinéraire. Cette image, comme les cartons de Coypel, a aussi circulé sous forme à l'identique d'images séparées, puisque quand on pense aux illustrations du texte ou d'un texte, il faut évidemment penser aux illustrations qui se trouvent dans les éditions, et une étude plus précise devant montrer où elles se trouvent, quel type de rapport elles entretiennent avec le texte, non seulement du rapport entre l'iconographie et la textualité, mais aussi lié à la position de l'image dans le texte. Mais on doit aussi penser qu'il y a beaucoup d'images dans les livres et beaucoup de tableaux peints ont circulé sous une autre forme, c'est-à-dire celle des estampes, qui donnaient à voir ce qu'on appelle en histoire de l'art les gravures d'imitation, et qui sont sans doute le support par lequel de nombreux spectateurs ont vu des tableaux dont ils n'avaient aucune, avec lesquels ils n'avaient aucune possibilité de relation directe. Et de la même manière, pour des acheteurs de gravures qui n'étaient pas en même temps ou n'avaient pas en même temps acheté les éditions, la circulation sous forme de séries ou d'estampes isolées, des gravures à l'intérieur des livres, était une manière de diffuser plus largement une connaissance iconographique, imagée, des textes que ces images illustraient. Donc, il pouvait y avoir aussi, dans l'horizon du début du XVIIIe siècle anglais, la présence de cette édition de 1725 de la traduction de Shelton, et avec, pour la première fois, l'introduction d'un autre modèle iconographique qui n'était plus le modèle iconographique hollandais, qui n'était pas ce modèle iconographique madrilène, avec d'ailleurs peu de variations dans le choix des épisodes représentés, la seule addition madrilène étant Cardenio, Dorothea, Aubin, mais un modèle iconographique que l'on appelle français parce qu'il dérive de la série des cartons de Coypel. Dans les images séparées qui pouvaient circuler, l'une que nous n'avons pas rencontrée jusqu'ici, assez curieusement, pouvait avoir un impact très fort sur la représentation mentale de Don Quichotte, et en particulier sur la relation existant, comme je le disais, entre deux personnages, Don Quichotte et Cardenio. Et on la trouve ici, cette représentation, dans une estampe séparée qui n'est jamais entrée dans une édition ou du moins comme tel, dans une édition du Don Quichotte. C'est cette estampe de Hogarth, comme vous voyez la datable entre la fin des années 20 et mi de 1738, parce que Hogarth avait pu être chargé de faire une série d'estampes pour une nouvelle édition du Quichotte, mais finalement, c'est un autre graveur qui, dans l'édition 1738, on va le voir, a donné les illustrations. Mais néanmoins, a circulé cette image qui, elle aussi, déplaçait en amont la rencontre entre Cardenio et Don Quichotte au chapitre 23. Jusqu'alors, on a toujours vu le moment où Cardenio se rue sur Don Quichotte pour le mettre à terre. Ce qu'a représenté Hogarth est un moment évidemment antérieur. C'est le premier moment, le moment où le chevalier errant entré dans la Sierra Morena avec Sancho rencontre cet homme sauvage, ce jeune aristocrate andalou qui s'est réfugié, enfin qui a fait retraite dans la Sierra Morena et qui a abandonné à la fois son identité et ses biens. Et ici, l'image de Hogarth respecte des indications précises du texte de Cervantes, que l'on peut reprendre ici, avec un petit écart qui porterait, comme on va le voir, sur la sauvagerie du personnage. Alors le texte de ce moment-là dans le Quichotte, qui est la fin du chapitre 23, Donc ils se rencontrent. À peine arrivés, le jeune homme les salua d'une voix discordante et rauque, mais fort poliment. Don Quichotte lui rendit son salut avec autant de civilité, et descendant de Rocinante, il alla d'un air avenant et de bonne grâce lui donner la collade et le tint longtemps serré dans ses bras, comme s'il l'avait connu de longue date. Et j'avais signalé que ce moment-là de la scène permettait ce que n'a pas exploité Théobald, c'est-à-dire les parallèles que l'on peut dresser entre la folie de Carreño et la folie de Don Quichotte. Donc cette série-là qui nous avait retenu la fois dernière, et pour conclure sur ce point, et même si la date est postérieure à la pièce de Théobald, 1727-28, je crois qu'on peut terminer cette analyse avec une édition fondamentale qui est celle de 1738 et qui a pu nourrir l'imaginaire des traducteurs, des éditeurs, des dramaturges dans le XVIIIe siècle et qui marque en quelque sorte un moment décisif dans l'histoire du texte de Quichotte, du Quichotte. Cette édition de 1738, elle est publiée par Thomson, que nous avons déjà rencontré, puisque le père et le fils Thomson étaient les libraires éditeurs qui possédaient le writing copy, devenu copyright, sur les œuvres de Shakespeare. Et vous vous souvenez que toutes les éditions des works of Shakespeare, y compris celle de Théobald, publiée peu après sa Double Falsehood, était publié par ces libraires éditeurs de Londres, les Thomson. Et en 1738, il publie une édition de Don Quichotte qui est très luxueuse, 4 volumes in quarto, une édition financée par un aristocrate anglais et passionné par la littérature espagnole, Lord Carteret, et une édition qui est fondamentale pour deux raisons. La première, c'est que c'est la première édition, en général, et pas seulement pour une traduction anglaise, à proposer une vie de Cervantes, rédigée en espagnol... Je veux dire que l'édition est en espagnol, cette édition de 1738, elle est publiée à Londres, mais en espagnol, mais à l'inverse de toutes les éditions préalables, quelle qu'en soit la langue, elle introduit une vie de Cervantes rédigée par un illustrado, un homme des premières lumières chrétiennes en Espagne, Don Gregorio Mayans y Siscar. Donc, une vie, le lien qui s'établit entre l'homme et l'œuvre, la vie de l'auteur et l'œuvre canonique du même auteur. Et d'autre part, elle est la première à introduire une image, que malheureusement je n'ai pas ici, mais qui représente l'auteur lui-même. C'est la première édition, celle en espagnol de 1738, publiée à Londres, qui introduit un double portrait de Cervantes, d'une part un portrait allégorique dans une image qui représente le Parnasse peuplé de monstres et de chimères et sur le chemin duquel on voit de dos un Cervantes Hercule ou un Hercule Cervantes, et c'est ce que donne le commentaire de cette image qui peut être pensée comme une allusion un texte de Cervantes de 1614, un immense poème, enfin en 8 chants, El viaje del Parnaso, qui est une fantaisie poétique dans laquelle Cervantes s'imagine lui-même montant au Parnasse, et là, y rencontrant la lutte entre les bons et les médiocres poètes. Cet épisode du viaje al Parnaso, qui est une œuvre moins connue de Cervantes, mais qui date de la période la plus intense de sa production, puisqu'elle est au moment entre les nouvelles exemplaires de 1613 et la seconde partie du Quichotte de 1615 et l'œuvre posthume, le Persiles y Sigismunda, le Liaché al Parnasso, qui est un texte de fantaisie entièrement rimé, sur cette bataille entre des bons et des mauvais poètes. Donc une allusion à ce texte de Cervantes dans cette image qui le représente comme un Hercule montant pour défaire ou restaurer l'ordre dans un Parnasse marqué par les monstres et les chimères. Et la deuxième image est une image de Cervantes au naturel, dessinée par William Kent et gravée par un graveur qui s'appelle Vertue, et qui le donne à voir sous ses propres traits. On voit donc qu'il y a là un processus avec cette œuvre de 1730, cette édition en espagnol de 1738, qui est assez parallèle avec le processus de canonisation de Shakespeare dans le folio de 1623. Dans les deux cas, un portrait d'auteur. Dans le second cas, une série de poèmes à la louange de l'auteur. Et dans le cas de Cervantes, une vie, ce qui dans les éditions shakespeariennes est un peu plus tardif, enfin est un peu plus précoce avec les anecdotes rassemblées dans l'édition de 1709, et un peu plus tardif si l'on pense que la première véritable vie de Shakespeare, la première biographie de Shakespeare est due à Malone à la fin du XVIIIe siècle. Mais on voit que le processus de canonisation d'une œuvre et d'un auteur suppose ces doubles dispositifs, c'est-à-dire l'écriture de la biographie de l'auteur à l'égal des grands artistes de la Renaissance ou des princes, et d'autre part la présence du portrait, de l'image de l'auteur qui du coup fait de l'œuvre comme l'immédiate traduction de ses pensées ou de ses sentiments. C'est donc la première importance de cette édition en espagnol de 1738. La seconde est l'abondance de l'iconographie, avec 67 estampes qui illustrent un programme conçu par John Holdfield et mené à bien par un peintre, John Vanderbank, et le graveur Gérard van der Gucht, que nous avons déjà rencontré. Dans ce programme, Holdfield, qui est comme celui qui orchestre cette édition, à la fois son texte espagnol corrigé et les 67 estampes, plus les deux frontispices, déclare « Les estampes peuvent servir à une fin plus élevée que le simple divertissement, en représentant et montrant de nombreuses choses que les mots ne peuvent pas exprimer aussi parfaitement. » Alors, cette petite phrase de Holdfield me paraît très importante dans la mesure où l'on voit qu'à partir de ce moment du XVIIIe siècle, il y a un nouveau statut qui est donné à la présence des images. Traditionnellement, et en relation avec une manière de penser la relation texte-image, sur laquelle a beaucoup insisté notre collègue Fernando Bausa, la relation est pensée comme une équivalence. L'image montre ce que le texte narre, et l'inversion des deux propriétés est très fréquente dans le vocabulaire, c'est-à-dire que le texte peint et que l'image relate. Il y a donc une identité sémantique qui est établie entre l'image et le texte qui peuvent être considérées comme équivalentes l'une à l'autre. Et cette citation d'Holdfield, mais qui est plus symptomatique d'une pensée plus générale, montre le déplacement à un autre paradigme de la relation texte-image. C'est le moment où l'on pense que l'image peut montrer ce que les mots ne peuvent pas exprimer aussi parfaitement, et aussi inversement, que le texte peut narrer, déployer ce que les images ne peuvent donner à voir que de manière plus fragmentée et limité. Et c'est là que ce modèle qui va gouverner à partir du XVIIIe siècle la relation entre le texte et les images dans des ouvrages de nature encyclopédique, à commencer par l'encyclopédie elle-même et ses planches, où va commander l'illustration des textes de fiction en suivant ce programme. Une image qui montre que le texte ne peut exprimer aussi parfaitement, par exemple, la synchronie des événements. Un texte nécessairement énonce l'un après l'autre des événements ou des faits, alors que l'image peut montrer dans la synchronie plusieurs choses qui se passent en même temps. De là son utilisation pour les ouvrages de technique ou de pratique, de là son utilisation pour des scènes de la fiction. Alors, suivant ce programme, dans l'édition de 1738, on a trois gravures au burin, donc dues à Gérard van der Gucht, sur ce programme peint par Van der Bank, ou dessiné par Van der Bank, qui sont associées à la nouvelle de Cardenio. La première, tout comme le choix d'Hogarth, montre la rencontre entre Cardenio et Don Quichotte, dont il est descendu de Rocinante, mais il porte encore son armure. Sancho s'est porté sur la droite pour le spectateur de l'image. Et le plus intéressant est évidemment les représentations des deux personnages que la fois dernière, je mettais en parallèle. La folie de Cardenio et la folie de Cervantes. Mais ici, ce qu'a choisi le graveur, c'est de montrer évidemment un Cardenio assez proche de la description de l'homme sauvage de Cervantes. Vous voyez les cheveux presque comme dans des représentations antiques de la folie, de la déraison. Vous voyez le vêtement déchiré qui correspond à la description de Cervantes. Et le geste des mains, qui est un geste finalement de distance maintenue, d'inquiétude, de manque de confiance dans la relation avec l'autre, ce qui est la caractéristique essentielle du Cardenio réfugié, fuyant dans la Sierra Morena, et à l'inverse, cette reconnaissance que fait Don Quichotte, comme le disait le texte, comme s'il l'avait toujours connu, alors que c'est la première fois qu'il le rencontre, et avec le geste des bras ouverts d'une civilité, d'une courtoisie, d'une politesse aimable, ou recueillant et accueillant Cardenio. L'image ici, par les deux représentations de ces deux gestes, très codés dans la théorie des gestes depuis le XVIIe siècle, permet de rapprocher finalement deux moments du texte d'une manière différente de l'extrait que j'ai lu, puisque dans l'extrait que j'ai lu, tous les deux sont déjà pris par la même civilité. Civilité de Cardenio, civilité de Cervantes. L'illustrateur a préféré un contraste entre un Cardenio qui est encore le Cardenio furieux, violent, méfiant par rapport à toute relation avec quiconque, du fait de la trahison qui a laissé une marque si forte sur lui, et de l'autre côté, Don Quichotte, dont la civilité, l'accueil, la générosité correspond à ce moment de reconnaissance. Voilà un subtil écart dans la représentation entre le texte qu'elle illustre. La deuxième image de l'édition de 1738 est l'image qui avait été introduite par l'édition madrilène, c'est-à-dire la Dorothea, surprise par le curé, le barbier et Cardenio. Et ici, on voit un traitement qui déplace aussi la scène sur le moment où Dorothea découvre qu'elle est observée par les trois hommes qui, dissimulés dans une position de voyeur maintenant, sont vus par Dorothea. Et là encore, dans cette série iconographique où les gestes sont chargés de valeurs symboliques, sans doute héritées de toute une tradition, on peut penser aux images, aux gravures de Lebrun au XVIIe siècle en France, on voit que le geste de Dorothea est un geste à la fois de surprise, dans un certain sens, un geste de pudeur, et on voit très clairement que le peintre, puis ensuite le graveur, se sont inspirés d'une tradition iconographique très forte, qui est la tradition, depuis la Renaissance, de la scène biblique de Suzanne, surprise au bain par les vieillards cachés et qui observent sa nudité. Ici, la gravure a retraité cette image qui, pour certains des spectateurs ou certains des lecteurs transformés en spectateurs de l'image dans l'édition de 1738, pouvait convoquer spontanément ou inconsciemment cette matrice iconographique de Suzanne et les vieillards dans le déchiffrement de cette image. Et du coup, sans doute emporté par cette identification entre Dorothea et Suzanne, le graveur a complètement abandonné ce qui était encore présent dans l'image espagnole de 1674, c'est-à-dire que normalement, à ce moment-là, Dorothea est encore avec le déguisement de jeune garçon qu'elle a pris et que seuls ses cheveux déroulés, blonds et longs, peu indiquent son identité féminine. Ici, le graveur a totalement abandonné cette représentation, puisque, comme vous le voyez, elle est vêtue d'une robe légère et qui découvre généreusement sa poitrine toute féminine. Donc, il y a là un écart dont on peut supposer qu'il a été entraîné par la référence à cette tradition iconographique si forte, mais qui, évidemment, s'éloigne beaucoup du texte de Cervantes, qui est oublié, dans une représentation qui, dans un certain sens, situe le spectateur de l'image, celui qui la regarde, dans la position de voyeur qui a été celle, jusqu'à ce moment-là, des trois hommes dans l'histoire, et on est presque ici dans un jeu qui, avec cette tradition iconographique de Suzanne et les vieillards, rejoindrait avec une certaine élégance et retenue un des motifs qu'on pourrait retrouver dans les images du libertine du XVIIIe siècle, que ce soit dans ou hors l'illustration des romans. Donc la deuxième image de 1738 et la troisième, qui porte directement sur qui se lie à l'histoire de Cardenio, est cette image classique, vous pouvez l'attendre, c'est-à-dire la supplique de Dorothea, Fernando, Lucinda et Cardenio. Là, le traitement est différent dans la mesure où le graveur a pratiquement mis dans les marges les autres personnages. Si l'on pense à la première iconographie hollandaise, où finalement il y a une image très peuplée, et les quatre jeunes gens se trouvent avec tous les témoins de l'auberge. Ici, ils sont mis au premier plan, et simplement dans la chambranle de la porte, on retrouverait le curé, le barbier et Sancho. Et là aussi, avec beaucoup de subtilité, le graveur ou le peintre ont opéré un léger déplacement chronologique, puisque vous voyez, Lucinda est pratiquement déjà libre de la mainmise de Fernando, qui est pratiquement déjà conquis ou vaincu par la supplique de Dorothea, et Cardenio, dans une posture plus proche de celle du texte de Cervantes, a les bras ouverts pour recueillir Lucinda. La différence étant que chez Cervantes, c'est parce que la jeune femme est prête à tomber à terre, prise de pamoison, qu'elle est recueillie par Cardenio, qui se précipite pour éviter sa chute. Mais ici, reprenant cette iconographie où les deux couples sont liés l'un à l'autre, un peu comme dans l'embarquement pour Citer de Watteau, Dorothea Fernando, Lucinda Cardenio, le graveur a déplacé le mouvement pour non seulement faire, comme on l'a déjà vu sur une image précédente, de la position de Lucinda entre les deux jeunes hommes, comme en résumé de l'histoire même de Cardenio, elle était à, de la nouvelle de Cardenio. Lucinda était à Cardenio, elle a été d'abord épousée puis enlevée par Fernando et elle revient à Cardenio. Et ce mouvement est rendu par cette position de la jeune femme entre les deux hommes, l'un qui l'a presque déjà rendu à la liberté, et l'autre qui l'accueille entre ses bras ouverts. On a donc là un motif qui avait déjà été traité, mais ici avec ce déplacement chronologique, puisque le Cardenio est ce Cardenio de l'accueil dans ses bras que décrit Cervantes au moment où la jeune fille est prête à défaillir. Alors, ce qui frappe évidemment dans cette traversée de l'iconographie de la nouvelle de Cardenio dans les éditions du Quichotte, c'est que jamais on a rencontré dans cette série, avant le milieu du XVIIIe siècle, la scène qui pourtant pouvait paraître la plus immédiate, la plus évidente à représenter, la plus théâtrale, la plus spectaculaire du point de vue pictural, c'est-à-dire la scène du mariage entre Lucinda et Fernando avec Cardenio, pour son malheur, dissimulé derrière une tapisserie. Et là, il reste une question de savoir pourquoi aucun de ces illustrateurs ou graveurs n'a représenté cette scène, alors que l'on a vu que même s'il y a une rigidité de la représentation, que la Sierra Morena, que la princesse Micomicona, la scène des repentirs et retrouvailles, il y a des variations qui ont permis d'en faire entrer soit de nouveaux motifs, Dorothea au bain, soit dans des images qui reprenaient une situation déjà gravée, de marquer un déplacement dans ce qui est montré du texte ou de ce qui est montré à distance du texte. Mais dans cette mobilité à l'intérieur de la fixité, jamais n'est entrée l'image du mariage. Alors, la question serait de savoir si elle embarrassait encore plus les artistes, peintres ou graveurs, qu'elle n'embarrassait les dramaturges, puisque, comme j'ai essayé de le montrer dans le commentaire de cette scène, dans différentes adaptations théâtrales, on voit bien la difficulté qui se liait à cette question fondamentale de qu'est-ce qui définit le mariage pour le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et on se souvient que les dramaturges avaient été embarrassés par la situation, c'est-à-dire un mariage avec un prêtre et les formules de l'Église, alors que les jeunes gens, Lucinda et Cardenio, Dorothea pour le moins, et finalement Fernando, se considèrent comme déjà mariés par les paroles, les promesses qu'ils ont échangées. Alors, vous vous souvenez que chez Guillén de Castro, dans la Commedia de 1605, 1606, peut-être 1608, la manière de régler cette difficulté était d'affaiblir la valeur sacramentelle du mariage entre Fernando et Lucinda, puisqu'aucun prêtre n'y participe. Que dans la pièce française de Pichou de 1628, le déplacement de l'autorité de Kimari sur un sacrificateur sorte de personnage à l'antique introduit dans la pièce pour éviter toute présence d'un membre de l'Église catholique, pouvait d'ailleurs correspondre à les préférences libertines, au sens du libertinage érudit de cet auteur, Pichou, et en même temps donnait une moindre valeur chrétienne à ce mariage. Donc, dans les adaptations théâtrales, il y a toujours la volonté d'affaiblir la dimension sacramentelle de la scène du mariage, alors qu'elle est absolument évidente chez Cervantes. Le prêtre récite les formules définies par le Concile de Trente pour faire le mariage et avec le oui des deux jeunes gens. Est-ce que cette même difficulté de représenter un mariage et comment, avec dans quel lieu, que la maison du père de Lucinda, mais avec quel officiant, un prêtre catholique, quel moment du mariage, l'échange des consentements, l'anneau passé au doigt de la mariée par l'époux, et du coup une image très forte qui montrait une union alors que cette union ne va pas être réalisée puisque avec la dernière scène que l'on a vue ce sont les premiers couples fondés sur l'échange des promesses qui se reconstituent. Peut-être qu'il y avait là une difficulté qui était très présente dans le cas des séries espagnoles avec un clergé catholique et y compris une inquisition très présente, mais qui pouvait être aussi un embarras pour les illustrations dans des mondes protestants comme le hollandais de Dordrecht ou comme l'anglais de toutes les images des éditions de Londres. Alors peut-être cette difficulté a pu entraîner à laisser de côté ce qui pourtant paraissait une des scènes les plus spectaculaires à représenter dans une image. La deuxième raison, peut-être ajoutée à la première, c'est le fait que, comme on l'a vu, les séries iconographiques ne portent pas une attention particulièrement forte à la nouvelle de Cardenio. Sauf cette scène des repentirs et des réconciliations, dans aucune estampe liée aux aventures des jeunes gens, Don Quichotte n'est absent. Et il y a une conclusion peut-être intéressante de cet exercice, c'est le fait que si, pour les dramaturges, au XVIIe et XVIIIe siècle, Don Quichotte a pu apparaître durablement comme un répertoire de nouvelles, qui pouvaient se transformer en intrigue de théâtre, que l'on décide ou non de mettre sur la scène le chevalier et son écuyer. Pour ce qui est des programmes iconographiques dans l'histoire, il n'en allait pas de même, puisque presque par nécessité, ils étaient focalisés, centrés sur le traitement comique ou la leçon morale des aventures et mésaventures de l'Hidalgo devenu chevalier errant. On pourrait le voir de manière encore plus forte que dans le cas de la nouvelle, entre guillemets, de Cardenio, avec la véritable novella qui se trouve dans le Quichotte, c'est-à-dire celle du Curioso Impertinente, des chapitres où, dans l'auberge, est lu à haute voix ce manuscrit trouvé par le curé, le barbier, Cardenio, Dorothea, qui sont réunis et qui accompagnent à partir de ce moment-là dans l'histoire Don Quichotte et Sancho, et l'histoire de ce mari qui, par trop de curiosité ou d'imprudence, les deux à la fois, défie son meilleur ami de séduire sa propre femme. Cette nouvelle du Curioso Impertinente, qui a été une des lectures les plus immédiates et les plus fortes de Cervantes, qui était en quelque sorte mettre à l'envers ce que dit Sanson Carrasco au début de la seconde partie du Quichotte, lorsqu'il indique qu'il y a des lecteurs qui ont critiqué l'histoire, lorsque Don Quichotte lui demande « mais qu'est-ce qu'on dit de moi et de mes exploits ?»
Il dit que certains des lecteurs se sont un peu étonnés que dans cette histoire, on rencontre une novella qui n'avait rien à y faire. Donc, Cervantes incorporant lui-même cette idée de l'anomalie de cette nouvelle exemplaire à l'intérieur du Quichotte de 1605. Mais à l'inverse, la lecture du texte a pu se lier très fortement à cette novella, qui était beaucoup plus facile, évidemment, à découper. Et une des premières éditions en français d'un fragment de Don Quichotte est une édition bilingue de la novella del Curioso Impertinente, je pense en 1608 ou 1609. Donc la première lecture du Quichotte a été la lecture de la nouvelle inscrite à l'intérieur du Quichotte, sans aucun rapport avec les aventures du chevalier errant. Et d'autre part, comme on le voit même dans l'Angleterre de la Restauration et du début du XVIIIe siècle, la nouvelle du Curioso Impertinente fournit la matière de pièces de théâtre qui mettent sur la scène cet épisode, alors même que jamais avant une certaine date, Don Quichotte n'apparaît dans une adaptation théâtrale, puisque vous vous souvenez qu'il n'est pas présent dans la Double Falsehood de Théobald. Or, en 1671, l'auteur, avec un femme, Afua Ben, avait donné une adaptation théâtrale de The Amorous Prince or The Curious Husband, en 1671, qui est un jeu avec la nouvelle du Curioso Impertinente, le mari trop curieux, et en 1694, Thomas Crowne met sur la scène une pièce appelée The Married Beau, le beau marié, or The Curious Impertinent, le Curioso Impertinente. Donc on a dans les adaptations théâtrales cette présence de la nouvelle. En revanche, dans les illustrations, des éditions qui donnent dans les trois chapitres où elle est lue à haute voix le texte de la nouvelle, aucune image avant, et ce sera la dernière et ma conclusion pour cette première partie cette analyse de ce matin, l'édition de Thomson en 1738 est la première qui introduit une image qui se rapporte avec l'histoire du Curioso Impertinente, sans doute parce que Oldfield, dans la description du programme iconographique de l'édition, avait indiqué que les épisodes qui étaient mêlés et enlacés avec l'histoire principale étaient importants parce qu'ils reposaient des péripéties de l'histoire principale. Alors, prenant à la lettre cette indication, Verbank le peintre et ensuite Van der Goucht le graveur ont représenté une scène de comédie dans le Curioso Impertinente, dont la fin est tragique, où Camilla, l'épouse, feint de vouloir tuer Lothario et de se suicider ensuite, son mari Anselmo étant derrière la tapisserie, mais c'est un stratagème qu'elle a conçu pour affirmer sa profonde vertu aux yeux de son mari, tuer celui qui lui fait des avances et ensuite suicider si elle ne peut lui résister. C'est une scène de théâtre où elle essaye de prouver, alors qu'elle est tombée dans la séduction, et de là l'imprudence ou l'impertinence de ce mari trop curieux. Et c'est cette scène-là qu'a représenté le graveur, interprétant d'ailleurs assez librement le texte de Cervantes, dans la mesure où le mari, Anselmo, reste caché, comme Cardenio, derrière sa tapisserie. Alors qu'ici, le graveur le fait sortir de la tapisserie pour, en présence de la servante de Camilla, voir cette scène où le poignard qu'elle tient dans la main droite était l'élément essentiel, feignant de vouloir tuer Lothario et ensuite de retourner contre elle sa propre arme. C'est donc une sorte d'une part, de la Pax ut rarte, c'est la première fois que le Curioso Impertinente, pourtant si lu avec tant d'attention et si souvent détaché de Don Quichotte, est illustré dans une édition de l'histoire. Et on peut penser que c'est d'autre part presque une référence implicite ou inconsciente à la scène du mariage, puisque dans les deux cas, on aurait un personnage caché derrière une tapisserie. Ici, en 1738, le graveur le fait sortir de derrière la tapisserie. Et pour terminer le parallèle, dans 1728, 10 ans auparavant, dans la pièce de Théobald, là aussi, Théobald interprétait librement le texte de Cervantes, puisque son Julio Cardenio, lui aussi, sort de la tapisserie, et ce qui était le dispositif choisi pour régler la difficile question du mariage, puisque sortant brutalement de derrière la tapisserie, à la différence du Cardenio de Cervantes qui reste caché et s'enfuit, cette interruption faite par la sortie de Julio de derrière son arras, la tapisserie, puisque d'arras, le nom de la ville des tapisseries devenait le nom commun pour les désigner, interrompt le mariage, et donc non seulement il n'est pas consommé charnellement, mais il n'est même pas célébré religieusement, puisque le père de Leonora, dans la pièce de Théobald, dit qu'il faut suspendre la cérémonie et que le prêtre doit être, ou le pasteur doit être averti et attendre que les choses se transforment et qu'il arrive à convaincre sa propre fille. Et donc on avait là à la fois deux interprétations d'un même dispositif, un personnage caché derrière une tapisserie, qui le reste chez Cervantes, mais qui en sort à la fois ici Anselmo et dans le cas de la pièce de Théobald, Giulio. Alors voilà cette première conclusion, cette première analyse pour ce cours, c'est-à-dire le contraste qu'on peut établir entre la lecture de la même œuvre, Don Quichotte, lorsqu'elle est faite par des dramaturges qui se saisissent du texte pour le transformer en théâtre, et lorsqu'elle est faite par des peintres ou des dessinateurs et des graveurs, qui s'en saisissent pour, à la demande d'un libraire-éditeur, accompagner les chapitres du Quichotte d'une série d'images. On peut prendre donc peut-être 5 minutes, selon notre habitude de pause, et je conclurai le cours de cette année, puisque c'est la dernière séance, avec une analyse d'une autre forme de présence de Cervantes en Angleterre, dans le début du XVIIIe et la fin du XVIIe, c'est-à-dire la présence du texte lorsqu'il est donné sous forme d'un abrégé. Voilà, donc on prend 5 minutes. À 11h12, nous pouvons reprendre.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.